Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin. Féminin.
Hey, you. Over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking. This piece is rare. I'm too cool for school. I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Rwandaise Salima Radia Mukanzanga est devenue la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre Guinée-Zimbabwe de la troisième journée, le 18 janvier, à Yaoundé. Une semaine plus tôt, elle était la quatrième arbitre du match Guinée-Malawi. Mukanzanga a notamment officié comme arbitre central lors du Mondial féminin 2019 en France et parmi les arbitres de champ aux Jeux olympiques de Tokyo. À savoir que la veille du match Guinée-Zimbabwe, la Confédération africaine de football a confirmé que Mukanzanga gérerait cette rencontre du groupe B avec deux autres assistantes, Karine Atenzabong du Cameroun et Fatia Jirmoumi du Maroc. Mais le jour du match, les assistants étaient des hommes. Lors d'une cérémonie à Freetown le 14 janvier, le président de la Sierra Leone, Julius Madabio, a promis d'accroître la représentation des femmes en politique. Il a déclaré que le gouvernement garantirait une représentation minimale obligatoire. Au moins 30% des candidats aux élections seront des femmes dans le cadre de cette réforme. Depuis le 19 janvier 2022, les femmes de la ville de Lira, en Ouganda, ne peuvent plus s'asseoir à l'avant des camions, règlement imposé par une association de commerçants qui affirme que les jupes courtes déconcentrent les chauffeurs et provoquent des accidents. Même les épouses des chauffeurs n'ont pas le droit de voyager à leur côté. Alice Mugwania, militante pour les droits des femmes, a déclaré que cette décision était illégale et contraire à la Constitution, qualifiant cette attaque envers les femmes de chauvinisme masculin. Imputer un accident de la route à une tenue vestimentaire est un raisonnement maladroit et un indicateur de la manière dont une femme est encore discriminée dans nos sociétés, a-t-elle regretté.
Parole de femme.
Honorine Moyenga est la première femme pilote dans l'armée de l'air du Burkina Faso. Partons à sa rencontre à travers un reportage d'Henry Wilkins qu'il a rencontré à Ouagadougou alors qu'elle s'apprêtait à décoller. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Depuis son enfance, Honorine Moyenga rêvait de piloter un avion. Après avoir obtenu son diplôme, l'armée de l'air a proposé de parrainer sa formation à l'école de pilotage, ce qu'elle a vite accepté. Le fait qu'il n'y avait pas d'autres femmes pilotes dans l'armée de l'air burkinabé à l'époque ne l'a pas arrêtée.
J'ai gardé ce rêve, je l'ai nourri et dès que l'armée de l'air m'a donné l'opportunité de le réaliser, j'ai pas hésité. J'ai saisi ma chance et me voilà pilote.
C'était il y a 7 ans et maintenant elle est pilote de transport à part entière pour l'armée de l'air et joue un rôle actif dans la bataille contre les groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Elle dit qu'en tant que première femme pilote militaire au Burkina Faso, elle n'a pas l'impression d'avoir rencontré plus d'obstacles qu'un homme, sauf peut-être plus de pression pour performer.
Donc quand tu es une fille, la seule fille, dans un milieu d'hommes, tous les regards sont sur toi. Ton travail est examiné de très près. Donc je devais travailler plus dur que les autres pour prouver que j'étais tout à fait capable.
Le commandant de Moyenga dit qu'il ne l'a pas traité différemment des autres pilotes. Capitaine Sana Saïdou, commandant de l'escadron de transport.
Au niveau de l'escadron, non, parce qu'il y avait déjà une prise en compte de les gens globalement dans toute l'armée. Et donc au niveau des locaux, c'était déjà pris en charge.
L'ONU affirme que l'introduction d'un plus grand nombre de femmes dans l'armée est importante. Les femmes peuvent être particulièrement efficaces en première ligne dans les rôles de maintien de la paix, car elles sont capables de se connecter et de renforcer la confiance avec d'autres femmes dans des communautés qui peuvent être hostiles. Les tensions entre les forces de sécurité au Burkina Faso et les civils sont souvent vives. De nombreux civils déclarant avoir peur des militaires qui viennent souvent de différentes régions du pays et de différents groupes ethniques. Lani Kelini fait partie de l'équipe d'ONU Femmes pour la paix et la sécurité.
Avoir des femmes dans des rôles de première ligne, interagir avec et autour de la communauté est un facteur essentiel d'une paix durable. Là où nous traitons avec des insurrections, où nous traitons avec différents groupes tribaux sur le terrain, c'est vraiment important.
À l'université de Ouagadougou, des étudiantes affirment que des modèles comme Moyenga les encouragent à occuper des emplois traditionnellement masculins et contribuent au développement du pays. Odette Soumé, étudiante.
Presque bon, toutes les femmes, nous tous, chacun peut espérer aussi faire ce qu'elle a fait aussi, même si ce n'est pas dans le pilotage.
Quant à Moyenga, elle dit ressentir désormais le poids de la responsabilité de performer et encourage les femmes à opter pour des rôles traditionnellement masculins, quelle que soit leur profession.
Depuis son ouverture au public fin décembre 2021, le train express régional au Sénégal a été emprunté par de nombreux voyageurs. Le TER relie Dakar à Diamniadio à 36 km de distance. Parmi les conducteurs, 13 femmes ont été recrutées par la société d'exploitation du TER. Notre équipe de reporters en a rencontré une aux commandes de ce train moderne. Un reportage d'Alison Fernandez et Mbindir.
Il est 7h à la gare ferroviaire de Dakar. Marie Von Gomme démarre sa journée de travail. La jeune femme de 26 ans, native de Dakar, est conductrice de train. Informaticienne de formation, elle a décidé de changer de voie en découvrant une petite annonce de la CETER, la société d'exploitation du train express régional. Après avoir passé un processus de sélection rigoureux, elle a suivi une formation de 4 mois.
C'est une formation très difficile, ça consistait plus de la théorie, de la pratique, de comprendre l'engin moteur, surtout ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de conduire, de tractionner, de freiner, non. Il suffisait aussi de comprendre l'outil, de pouvoir le manipuler à l'aise, de pouvoir dépanner.
Elles sont 13 femmes parmi les 70 conducteurs de train recrutés par la CETER. Un métier traditionnellement réservé aux hommes. Mais les femmes se sont illustrées par leurs bonnes performances, notamment pendant la formation, à l'issue de laquelle elles étaient plusieurs à sortir majeures de promotion, selon Frédéric Bardonnet, directeur général de la CETER.
Pour aucun métier, on a mis le quota de femmes. Mais il se trouve que l'on a aujourd'hui un taux de féminisation de 40%, tout métier confondu. Alors évidemment, un taux important sur les fonctions support, sur les fonctions d'agent de service voyageur, je retrouve en gare. Mais on a, et c'est une surprise, c'est plutôt une bonne surprise pour nous, sur des métiers plus techniques, notamment la conduite ou la maintenance, on a des taux de féminisation plus importants que ce qu'on pouvait imaginer ou ce qu'on retrouve dans d'autres pays, en France notamment.
Et visiblement, les passagers sont séduits par cette féminisation. Notamment ses pères venus faire leur premier voyage à bord du TER en famille.
Les femmes, elles sont beaucoup plus attentionnées, elles sont beaucoup plus patientes dans la conduite, elles font beaucoup plus attention par rapport aux hommes. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi.
Le fait de voir que ce train est conduit par une femme est aujourd'hui une avancée majeure pour notre pays. Ça montre aujourd'hui que le Sénégal a positionné la femme là où elle doit être, c'est-à-dire au centre des décisions.
Projet phare du plan Sénégal émergent, le TER est officiellement sur les rails depuis lundi 27 décembre. Il compte au total 950 employés et plus de 97% des postes sont occupés par des Sénégalais. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Femme à la Cour suprême du Pakistan pour la première fois. Ayesha Malik, qui a prêté serment le 24 janvier 2022 à Islamabad, siège aux côtés de 16 hommes. L'avocate et militante des droits des femmes, Khadija Siddiqui, a dit espérer que cela mènera à des décisions de justice en faveur des femmes. Ayesha Malik a été juge à la Haute Cour de Lahore pendant 20 ans. Elle a contribué à faire évoluer les mœurs patriarcales dans la province du Pendjab en interdisant notamment en 2021 le test de virginité. La Haute Cour de Lahore avait estimé que cette pratique constituait une agression contre la dignité des victimes de viol.
Les mondes féminins de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
La Côte d'Ivoire compte environ 330 000 enfants dans des structures islamiques, soit 22% des élèves. Le gouvernement essaie d'intégrer certaines de ces écoles confessionnelles dans le système éducatif officiel. Un reportage d'Aïcha Diarra.
Nous, on n'a pas eu la chance d'aller de faire beaucoup de Français, beaucoup d'Arabes. Mais nous, on a fait Arabes seulement. Mais Alhamdoulilah, allez là, il y a Français. Je travaille actuellement. Si j'avais eu la chance de faire les deux ensemble, ça allait très, très m'arranger. Parce que le travail que j'ai fait, ça ne peut pas partir sans écrit, sans lire.
Pour pallier à cette inégalité de chance, l'État s'est engagé à offrir à tous les enfants du Côte d'Ivoire une éducation de qualité, équitable et inclusive. En adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à travers la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Marie Toukoné est la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
La Côte d'Ivoire a réussi à relever le pari de la mobilisation autour d'une cause d'envergure nationale. Il nous reste à créer les conditions de la mise en œuvre diligente de l'intégration jusqu'en 2025.
L'école islamique Al-Itiyadia, dont l'existence remonte à plus de 30 ans, fait partie des premiers établissements à intégrer le système éducatif national depuis 2011. Kanté Abdul Karim en est le directeur d'études.
De 2011 à aujourd'hui, il faut dire que l'effectif a considérablement augmenté. Les parents s'intéressent beaucoup aux écoles confessionnelles islamiques qu'aux écoles madrasa aujourd'hui, puisque l'enfant bénéficie de des enseignements. Non seulement il apprend la religion, l'arabe, mais à côté de cela, il apprend aussi le français. Et ensuite, il participe au concours de l'État. Bon, nous avons 3 jours pour le français et 2 jours pour l'arabe.
Selon le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Marc Vincent, depuis septembre 2011, plus de 100 000 enfants ont commencé une année scolaire d'un nouveau genre qui allie le programme officiel et l'éducation religieuse.
UNICEF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les bases sont jetées et il nous faut maintenir l'engagement tout en accélérant la cadence pour l'intégration des enfants de près de 3 000 structures islamiques déjà identifiées.
Parmi ces structures répertoriées, l'établissement islamique Ousmane Boun Afan au quartier Olienou de Boaké où Traoré Daoud enseigne uniquement la langue arabe.
Bon, vraiment, on a fait des réunions avec les guides. Vraiment, on nous a expliqué comment il faut pour être intégré. Voilà. Bon, les classes même doivent être bien construites, plafonnées, tout ça. Ils ont parlé de ça. Bon, dans chez nous aussi, vous-même, vous voyez, voilà, on est encore loin d'être intégré.
Héritage colonial, les écoles catholiques dès 1960 ont été intégrées par le président Félix Houphouët Prophète Boigny au système d'enseignement public. Et il y a encore du chemin pour parfaire l'intégration des écoles islamiques dans le système officiel de l'éducation nationale. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Salut à toutes et à tous, c'est Nathalie pour vous présenter le meilleur bout. On est tous sur la même planète, on est tous sur la même planète. Merci, 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 vous nous écoutez, c'est extraordinaire. Et on a le droit d'être heureux, il faut y penser, il faut y penser. Ben finalement, c'est ce que je vous souhaite, être heureux, être heureux. Et on essaiera d'être de plus en plus heureux. Oui, pourquoi pas, hein? C'est l'objectif.
On s'est rencontrés un mercredi sur le quai. Il m'a dit, mademoiselle, je suis un ami de vos amis.
C'est un grand honneur pour nous de savoir que vous nous écoutez et on pense à vous et on vous aime beaucoup, vraiment. Pour vous, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez, il faut que ça se réalise et puis c'est tout. Voilà, à bientôt et bon courage. Le président élu chilien Gabriel Boric, 35 ans, a dévoilé le 21 janvier un gouvernement composé d'une majorité de femmes. Sur 24 ministres, 14 sont des femmes. La ministre la plus jeune est Antonia Orellana, 32 ans, en charge du ministère des femmes. Le ministère de la Défense revient à Maya Fernandez, petite fille de l'ancien président Salvador Allende. Et celui de l'intérieur à Ischia Sitges, 35 ans, cette chirurgienne était devenue en 2017 la première femme à la tête de l'ordre des médecins. La militante et députée Camila Valeggio est nommée porte-parole du gouvernement. En Mauritanie, où plus de 30% des couples finissent par divorcer, les femmes répudiées ont leur propre marché pour écouler leurs meubles et équipements domestiques. Ce marché très spécial est devenu un lieu de rencontre où elles échangent leurs histoires. Un reportage de Mohamed Diop à Nouakchott.
Mariam est à son deuxième divorce et elle prend seule en charge les enfants.
Le père des enfants envoie très peu d'argent et rarement. Il faut plusieurs appels au téléphone pour l'obtenir, alors que les besoins sont énormes. On a les frais de scolarité et bien d'autres dépenses.
Pour se faire les revenus, elle a dû rejoindre le marché des divorcés au cœur de la capitale Nouakchott. Ici, les femmes divorcées viennent brader leur matériel des maisons contre de l'argent. Vieux matelas, rideaux, tapis, armoires, appareils électroménagers, ustensiles de cuisine et autres.
Si une femme est répudiée, elle vient ici au marché revendre son matériel de maison.
Chez les mondes, quand la femme, elle divorce, elle prend le matériel de la maison. Elle peut aller s'installer avec chez elle ou chez elle, qu'elle retourne chez ses parents, qu'elle loue un appartement ou qu'elle ait une maison, elle peut l'utiliser. Quand elle divorce une seconde fois, eh bien, ce matériel, elle n'en a pas besoin. Que ce soit les fauteuils du salon, les ustensiles de la cuisine, le frigo et tout ce qui va avec la télévision, etc. Donc, elle n'en a pas besoin. Elle part pour le vendre. Et vu qu'elles se sont très souvent retrouvées au niveau de ce marché, eh bien, c'est devenu forcément un marché donc, de femmes divorcées.
Ici également, les histoires de divorce s'enchaînent.
J'ai été divorcée plusieurs fois. En tout cas, l'homme mauritanien est peu soucieux. Il divorce et disparaît.
après, sans même laisser d'abri aux enfants. Après, la femme doit s'occuper des enfants et doit alors s'adonner à de petits commerces pour les nourrir. J'ai divorcé 3 fois, mais après le divorce, la femme est confuse, toute seule, elle ne sait pas quoi faire des enfants, comment les nourrir, les soigner, les éduquer.
Aujourd'hui, le marché fait écho dans tout le pays et attire même des hommes qui donnent leur version des faits.
J'ai divorcé 9. En fait, je n'aimais pas tout ça. C'était ma foi et la volonté de Dieu. C'était la dernière qui a décidé de me quitter après m'avoir ruiné. Et elle m'a laissé sur le carreau.
Dans la tradition culturelle maure, une femme divorcée, elle est bien perçue. Donc, plus elle divorce, plus elle est aimée et recherchée et demandée plutôt, je dirais, en mariage par les hommes. D'ailleurs, c'est pourquoi qu'on appelle ces femmes-là, qui ont connu plusieurs divorces, les chibibes. Chibibes qui veut dire en mort charmante, mignonne, jolie et tout. C'est tout à fait le contraire qui se passe dans la société négro-mauritanienne où la femme, quand elle divorce, eh bien, elle est très mal perçue par la société, elle est indexée, elle est mésestimée et ses chances de remariage sont vraiment réduites.
Chance de remariage réduite. Entre-temps, Mariam s'occupe de ses enfants et affronte le défi de trouver une source de revenus. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Une association sénégalaise affirme que les femmes du monde rural actives dans l'agriculture subissent déjà l'impact du dérèglement climatique et dit que si rien n'est fait, la situation de ces agricultrices déjà vulnérables risque d'empirer. On retrouve Alison Lekogo Fernandez qui est allée à la rencontre de ces femmes avant la COP26.
Depuis qu'elle a créé son association il y a 2 ans, Radi Camara parcourt le Sénégal à la rencontre des femmes du monde rural.
Ça va.
Son objectif, promouvoir leur autonomisation à travers l'entrepreneuriat vert. Mais un peu partout, ces femmes s'inquiètent. À l'image de Binta Wan, maraîchère dans la forêt de Mbao, en périphérie de Dakar. Ici, les pertes agricoles ont considérablement augmenté depuis 3 ans et les légumes ne poussent plus comme avant.
Ça, c'est le soleil, c'est dû au soleil, aux chaleurs extrêmes, mais également à la contamination des sols due à la pollution. Au gaz à effet de serre. Chaque année, elle arrivait à produire jusqu'à 67 kilos qu'elle revendait pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Donc cette année, ça veut dire que ce groupement ne pourra pas vendre d'aubergines.
Sur cette parcelle de 2 hectares exploitée par une 50aine de femmes réunies en groupement, les pertes atteignent désormais 40% contre moins de 10% auparavant. Avec l'augmentation des températures, de nouveaux parasites font leur apparition, comme sur les racines de ces choux.
Il y a de petites boules qu'on appelle le nématode. Nous voulons des solutions pour que ça ne revienne. On n'est pas des pesticides. C'est pourquoi on a un problème très difficile de traiter ces produits.
Selon le dernier rapport du GIEC, les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Et l'Afrique est particulièrement exposée au choc climatique, alors qu'elle ne produit que 4% des émissions de gaz à effet de serre. Un paradoxe que Radi Camara entend dénoncer à travers cette marche, organisée à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse, une marche qui a réuni une centaine de femmes.
Nous avons envie aujourd'hui, à travers cette marche, que la voix des femmes sénégalaises, la voix des femmes africaines, qui d'ici 10 ans seront confrontées à une extrême pauvreté, soit entendue et soit mise sur la table des négociations pour que l'injustice climatique ne soit plus.
L'association appelle les pays industrialisés à respecter leurs engagements pris il y a 6 ans lors de la COP21 à Paris, engagement qui visait à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alisa Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Féminin. féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.